Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Toujours pas de consensus autour de la candidature de 5 membres de l'Union Sacrée devant diriger le prochain bureau de l'Assemblée nationale. Après la réunion d'hier, telle que recommandée par le chef de l'État, rien de concret. L'Union Sacrée dit s'en remettre à la sagesse du président de la République pour trancher. Persistance des conflits intercommunautaires, insécurité, coûts élevés de la vie, pénurie d'eau et du courant électrique, ce sont là les mots dont souffrent les populations de la Tchopo. Constat de l'église de réveil du Congo, exprimé hier à Kisangani, elle propose ainsi une mini table ronde pour amener les Boyomé à proposer des stratégies pouvant sortir la province de cette crise multiforme. Et puis, ce matin, nous recevons le général Sylvain Ekenge. Le commandant du service de communication et information des FARDC revient sur la commémoration du 17 mai, journée dédiée aux soldats morts pour la défense de la patrie et ce, encore sous le drapeau. Mais d'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, la résidence de Vital Kamerhe, candidat au poste du président de l'Assemblée nationale, a été attaquée tôt ce dimanche vers 4h30 par un groupe d'hommes armés en tenue militaire. C'est ce que rapporte sur son compte X Michel Moto, porte-parole de Vital Kamerhe et député national de son parti. Selon lui, deux des policiers commis à sa garde ainsi qu'un des assaillants ont perdu la vie. Vital Kamerhe et sa famille sont sains et saufs. Leur sécurité a été renforcée. Ajoute-t-il. L'information est aussi partagée par Hidetoshi Ogawa, ambassadeur du Japon résident à Kinshasa, qui a invité les Japonais à la prudence. Il y avait une attaque armée chez Vital Kamerhe au centre de la Gombe. Des troupes militaires s'y déploient en ce moment. Restez vigilants et prudents de votre sécurité, alerte l'ambassadeur du Japon. Kamerhe lui-même n'a pas été touché, mais jusqu'à 6h24, on entendait encore des tirs des fusils d'après les habitants, écrit l'ambassadeur du Japon. Madame, Messieurs, bonjour. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le Présidium a échangé hier, jusque tard dans la nuit, avec les responsables des regroupements politiques, membres de l'Union Sacrée. Objectif, dégager un consensus autour du ticket de l'Union Sacrée au bureau de l'Assemblée nationale. Mais ce consensus n'a pas été trouvé. L'Union Sacrée se remet donc à la sagesse du chef de l'État pour trancher et désigner les 5 autres personnes, en plus de Vital Kamerhe, pour faire partie du bureau de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Après plusieurs heures de discussion entre le Présidium et une quarantaine des présidents des regroupements politiques de l'Union Sacrée, aucun consensus n'est trouvé. Les discussions ont porté sur la répartition des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Tout devrait se faire en fonction du poids politique et de la représentation de la femme ainsi que de l'espace Grand Oriental, conformément aux directives de la Haute Autorité de l'Union Sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi. Il ressort des discussions que l'ordre d'arrivée classe l'UDPS et sa mosaïque en tête avec 150 députés, suivi de la mosaïque de Samalou Kondé, 47 députés, de la PEP AAAP, qui regroupe Tony Kankou, Steve Mbikai et Lambert Mende avec 35 députés, suivi de l'UNC et AVK, 34 députés, puis de l'AFDC à 32 députés. Comme l'UNC occupe déjà la présidence avec la candidature incontestée de Vital Kamerhe, Caroline Bemba du MLC et Christophe Mbosso devraient laisser la place au bureau, estiment certains députés. Pour d'autres, seul le chef de l'État peut trancher, car selon eux, le Présidium qui a créé le problème ne saura pas le résoudre.
À propos justement de la décision du président de la République de renvoyer l'Union Sacrée à revoir le ticket des membres du bureau de l'Assemblée nationale, notez cette réaction du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, dans une conférence de presse hier à Kinshasa. Valérie Madianga, président de cette structure, affirme que ces partis politiques de l'Union Sacrée chercheraient tout simplement à avoir une mainmise sur les finances publiques de la Chambre basse du Parlement, mais pas pour résoudre les questions socio-économiques de la population congolaise. Valérie Madianga le dit au micro de Paul Matendo Mayamba.
Le renvoi ou le report des élections démontre clairement que le jeu politique au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour résoudre les problèmes de la population congolaise. La gestion des finances au niveau de l'Assemblée nationale présente un enjeu majeur pour la coalition au pouvoir. Les partis politiques qui se bousculent à accéder à des postes les plus importants chercheraient à avoir une mainmise sur les finances publiques de l'Assemblée nationale. Ces reports, néanmoins, c'est juste pour apaiser les esprits entre eux, peut-être renforcer encore des pratiques de corruption, tout en créant des lignes budgétivores pour acheter la conscience des uns des autres. Et tout ça, ça va fragiliser les contrôles parce que l'élection ne sera pas transparente, mais aussi la population ne peut rien attendre de cette Assemblée nationale qui a déjà planté les décors sur les pratiques non démocratiques pour accéder à des postes les plus importants de ces bureaux que tous nous attendons.
Pendant ce temps, à l'Équateur, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale est désormais connu. Delcy Mata est élu président de l'organe délibérant avec 12 voix sur 21 votants. Jean-Paul Elekola est le vice-président, Bozoko Vigilant rapporteur, Ezekiel Ambokani rapporteur adjoint et Vanx Beyoko questeur. Dans ses premiers mots après son élection, Delcy Mata invite ses collègues à placer derrière eux la crise qui vient de les secouer, car ils ne sont pas ennemis mais des hommes d'État, dit-il. Ils doivent travailler pour l'intérêt supérieur de la population. En outre, Delcy Mata s'est engagé avant de clôturer la session extraordinaire et d'ouvrir simultanément la session de mars à œuvrer dans la solidarité parlementaire, évitant des invalidations intempestives. Notez qu'aucun incident n'a été enregistré durant ce scrutin, ce qui donne lieu enfin aux élections des sénateurs et du gouverneur de province, scrutin fixé au 24 mai prochain. Je vous le disais en titre, l'Église de réveil du Congo dresse un tableau sombre de la situation sociale et sécuritaire dans la province de la Tchopo. Son évêque régional dans la Grande Orientale l'a exprimé lors de la session extraordinaire de l'Église de réveil du Congo, session tenue hier à Kisangani. L'évêque Gabriel Luzolo a noté entre autres la persistance des conflits intercommunautaires, l'insécurité, le coût élevé de la vie, la pénurie d'eau et du courant électrique à Kisangani. Il propose ainsi la tenue d'une mini-table ronde pour amener les Boyomés à proposer des stratégies pour sortir la province de cette crise multiforme. Gabriel Luzolo, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Face à ce tableau sombre que représente la province de la Tchopo, l'Église du réveil du Congo recommande l'arrivée imminente à Kisangani du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et de celui de l'Intérieur et Sécurité pour la tenue d'une mini-table ronde devant réunir toutes les filles et fils de la province de la Tchopo autour d'une même table afin d'examiner et de trouver les solutions idoines aux problèmes qui sont considérés comme les sources de conflits entre le peuple et aussi à se pencher sur autres cas liés à l'insécurité qui règne dans ce coin de la RDC. Aux animateurs des institutions de la province nouvellement mises en place de travailler dans l'unité et de prendre à bras le corps le problème qui pèse sur la province de la Tchopo en mettant en place un cadre de concertation qui doit traiter et assurer la bonne cohabitation entre le peuple.
Notez que l'Église de réveil du Congo organise le 1er juin prochain, en collaboration avec d'autres confessions religieuses, une prière de réconciliation, de paix et de sécurité, et ce sera à la place de la poste à Kisangani. Ici à Kinshasa, plusieurs Kinois membres de l'ASBL Banakin exigent des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda et le M23. Cette association qui défend les intérêts des Kinois et qui est dirigée par Godard Mutemona, vice-ministre des Mines, l'a fait savoir au cours d'une marche de colère organisée hier samedi à Kinshasa. Des détails dans ce reportage de Blaise Shindani Kambala.
Plusieurs Kinois ont pris part à cette marche de protestation pour dire non aux actes de barbarie qui causent désolation, souffrance et perte en vie humaine parmi les populations civiles innocentes depuis plusieurs décennies dans l'est de la RDC. Des tissus blancs autour des têtes, ces Kinois ont montré leur préoccupation sur les conséquences dévastatrices de la guerre de l'Est qui crée un climat d'insécurité, d'incertitude et de désarroi dans la partie orientale du pays. Joël Monanga, secrétaire général de Banakin.
Dénonçons fermement et avec la dernière énergie, cette énième agression.
Cette manifestation a eu comme point de chute la MONUSCO pour déposer leur mémo. Pourquoi avoir choisi la MONUSCO? Godard Montemona, président de l'Est, Belbanakin répond.
Pourquoi la communauté internationale? Pourquoi les Nations Unies? Parce que nous savons que les Nations Unies peuvent user de sa position pour demander au Rwanda, notamment les sanctions économiques, de se retirer de notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau de l'Ukraine. Pourquoi deux poids, deux mesures? Au niveau de l'Ukraine, on a imposé des sanctions contre la Russie.
Il faut noter que cette marche qui se voulait pacifique était encadrée par les éléments de la police nationale congolaise et n'a connu aucun incident.
Autre nouvelle, la Direction générale des recettes de l'Ituri, DRPI, mobilise plus de 4 100 000 dollars américains pour le premier trimestre 2024. Selon l'inspecteur provincial des finances, cette performance se justifie par la pression mise sur les animateurs et agents de ce service pour lutter contre la fraude. Cependant, plusieurs autres recettes échappent à la province à cause de la présence des groupes armés où l'État n'essaie pas recouvrer de l'argent auprès des assujettis. David Mokili, responsable de ce service en Ituri, explique la situation au micro de Jean-Claude Loki.
Lorsque la population ou les agents de la DGRPI prennent conscience, ça joue sur la mobilisation des recettes. Notre combat de chaque jour, c'est que le taux de la fraude, que ça puisse quitter de ça pour ça et que ça puisse graduellement descendre. On ne dira pas qu'on a maîtrisé la fraude, on a maîtrisé le bradage ou les détournements, mais tout simplement, avec la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri et l'inspection provinciale des finances, nous mettons des pressions sur les agents afin qu'ils puissent diminuer totalement jusqu'à ce qu'on arrive un jour à mettre fin à cela. Et s'il n'y avait vraiment pas la sécurité là, alors j'estime qu'avec cette performance que nous avons analysée, on peut même arriver à 15 millions par trimestre. Cette situation de la sécurité impacte effectivement sur les recettes, mais quand on a la volonté, on se concentre sur les coins où il n'y a pas trop de situations de la sécurité, on mobilise les recettes normalement et on les canalise normalement sans les détourner, ça fera quelque chose pour la province.
Kasaï Oriental, signalant la reprise vendredi 17 mai des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Mbujimayi. Les engins des entreprises Safrimex et Johnny Matala Company, JMC, sont visibles sur quelques artères de la ville. Le directeur de l'Office des voiries et drainages, OVD, justifie cette situation par l'arrivée à Mbujimayi de plusieurs matériaux de construction d'une part et le montage des usines d'asphaltage par ces entreprises de construction des routes d'autre part. Esther Ndalafina, reportage.
C'est depuis vendredi que quelques routes de Mbujimayi ont été barricadées suite aux travaux de réhabilitation et construction de la voirie urbaine. Les engins de l'entreprise Johnny Matala Company, JMC, ont débuté ce même vendredi l'asphaltage de l'avenue Lubi en ville Miba, à quelques mètres de l'entrée du Conseilé. Il y a quelques mois que les travaux de réhabilitation de cette route ont été suspendus. L'avenue Katomba, qui relie les communes de Djoulou à celle de Bipemba, les travaux de réparation de la couche de base sont en train d'être effectués par l'entreprise Safrimex. Certains engins sont aussi visibles sur l'avenue du gouverneur et sur l'avenue Inga en diagonale de l'hôtel KB Deluxe. Contacté, Trésor Kachala, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, justifie cette reprise des travaux.
Les entrepreneurs étaient en train de faire leur stock, soit en matériaux, soit en bitume, et les autres démarraient leurs nouvelles usines. C'est dans ce cadre-là qu'ils reprennent les asphaltages. Safrimex a fini de monter son usine. JMC a fini de faire son stock de gravier. Il reprend les asphaltages.
Signalons que les travaux d'assainissement se déroulent bien sur les avenues des écoles et cathédrales. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction la province du Kwilu, il s'observe une pénurie d'eau de la régie des eaux dans certains quartiers de la commune de Basoko à Bandunduville. Ce sont notamment les quartiers MONUSCO, Sibé Congo, Trois-Rivières et Biko. Les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer l'eau des robinets. Conscient de la situation, Gabi Mukinji, directeur provincial de la régie des distributions d'eau, explique cette pénurie par la pose des tuyaux de très petit diamètre dans les quartiers cités et rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour décanter la situation. Gabi Mukinji, directeur provincial de la régie des eaux Grand Bandundu, explique au micro de Irène Boma.
Au mois de septembre, nous avons déployé une équipe qui nous a retracé et le croquis des quartiers MONUSCO, Sibé, Trois-Rivières. C'était étonnant de voir que les gens ont quand même de l'eau avec les réseaux qui existent. Il n'y a pas une structure de réseau. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune grande canalisation qui peut amener de l'eau en grande quantité pour desservir les gens. Dans les quartiers MONUSCO, le plus grand diamètre que nous avons, c'est un diamètre de 9 cm. Et après les 9 cm là, ce qu'on retrouve pour la plupart, vous pouvez avoir 200 mètres, 300 mètres, ce sont des tuyaux de 3 cm. Au fait, c'est les tuyaux que nous donnons de l'eau à un individu. Mais ici, on a posé ces tuyaux-là sur l'avenue. Je ne condamne pas les abonnés. C'est notre façon de faire qui est arrivée. Sans tuyaux, les gens demandaient de l'eau. On a donné de l'eau à ces gens-là avec les petits tuyaux, alors qu'ils n'étaient pas encore nombreux à MONUSCO. Maintenant que la population a augmenté, il y a un problème de distribution puisque les conduites ne peuvent pas donner de l'eau, ces petites conduites-là.
Actualité internationale. 8 mois après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, l'armée israélienne a découvert les corps des 3 otages dans la bande de Gaza. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare vouloir poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas, les avis sont mitigés au sein de la population israélienne. Les Israéliens sont divisés donc en 2 camps. Il y a d'un côté ceux qui veulent que le gouvernement suspende la guerre et libère les otages, et de l'autre ceux qui pensent que les otages représentent un prix à payer pour éliminer définitivement le Hamas.
L'invité.
Il s'agit du général Sylvain Ekenge, le commandant du service de communication et information des FARDC, revient sur la commémoration de la journée du 17 mai dédiée aux soldats morts pour la défense de la patrie, et ce encore sous le drapeau. À Kinshasa, il a été organisé une brève cérémonie officielle au cours de laquelle le vice-premier ministre et ministre de la Défense a déposé une gerbe des fleurs au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom. Le général Sylvain Ekenge est avec Billy Van Lutuba.
Général Ekenge, bonjour.
Bonjour.
17 mai, journée de la révolution des FARDC. Tous les hauts officiers et les hommes de troupes se sont retrouvés place Forescom au mémorial du soldat congolais. Quel a été le sens de cet événement pour cette année 2024, 5 ans après l'institution de cette date?
Le 17 mai, c'est une journée qui commémore la libération de la RDC, de la dictature de la Deuxième République. C'est à cette date que les troupes de l'AFDEL, en 1997, sont entrées à Kinshasa. Et dès lors, cette date célèbre cet événement-là. Mais aujourd'hui, on est allé au-delà de cette symbolique. Cette journée est dédiée aux forces armées pour leurs hauts faits. Et c'est tous les hauts faits d'armes dans le passé qui ont marqué et continuent à marquer l'histoire militaire de notre pays.
Et là, c'est entre autres notamment
l'histoire de notre armée est marquée par des campagnes militaires victorieuses à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Notre armée s'est distinguée sur le champ des batailles. Les rébellions de 64, les guerres de Scram et de Bobdena, les guerres du Tchad, les guerres de 6 jours, de 80 jours, cas de la Première Guerre mondiale, à Tabora, Mahenge, Kigoma et autres localités qui ont été libérées par l'armée, la force publique de l'époque, dans la partie orientale de notre continent, occupée par l'Afrique à corps allemand. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à se battre au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, à Kwamut, au Kwango, pour ne citer que ces coins de notre pays. Le sang du soldat congolais a coulé et continue à couler pour maintenir la RDC dans ses limites de 2 345 410 km². Et cette superficie sera maintenue et l'intégrité territoriale assurée, quoi qu'il en coûte. C'est en reconnaissance à ces hauts faits que la nation reconnaissante a dédié la journée du 17 mai aux forces armées.
Une journée qui arrive au moment où l'armée fait face à une intrusion des troupes rebelles. C'est quoi ce message aujourd'hui, en cette journée de l'armée, que vous pouvez donner par rapport à cette intrusion par ces rebelles?
Mais c'est une agression ouverte et déclarée du Rwanda au Congo, qui utilisent une forme de guerre appelée guerre asymétrique en utilisant des supplétifs qu'ils appellent M23. Et même dans les M23, il y a les troupes régulières de l'armée rwandaise habillées en tenue du M23. Ce que je dois rassurer à la population est ceci, quoi qu'il en coûte, le Congo va retrouver ses 2 345 410 km² et les forces armées de la République démocratique du Congo ont le devoir de mettre hors du territoire national les agresseurs, même s'ils sont, je ne sais comment, avec quels moyens, avec quels effectifs, mais nous sommes chez nous. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que notre territoire soit libéré.
Malgré leur avancée...
C'est ça la guerre. La guerre a des hauts et des bas. La guerre a des épiphénomènes. La guerre se mène très souvent en dents de scie. Il y a des victoires, il y a des défaites. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans peu de temps, la guerre va changer de visage parce que la détermination est certaine et nos forces armées sont en train de se comporter comme il se doit sur le terrain. Et avec l'avènement du nouveau commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, souvenez-vous, sa première réunion était avec les militaires. Et aujourd'hui, il a mis tous les pas pour que la formation soit assurée, l'équipement soit réel, effectif, et l'entraînement se fasse comme il se doit dans les règles de la guerre. Et c'est ce qui s'est fait. Nous avons la chance d'avoir un président de la République, un commandant suprême qui comprend comment fonctionne l'armée. Il ne lésine pas pour mettre les moyens qu'il faut à notre disposition. Les militaires doivent se comporter conformément aux lois de la guerre. Les militaires doivent se comporter conformément aux règlements et à la discipline. Les militaires doivent appliquer ce qu'ils ont appris pour la guerre et ensemble avec notre population, ensemble avec notre gouvernement, ensemble avec le commandant suprême, nous allons gagner cette guerre.
Général Sylvain Ekenge, commandant du service de communication et information des FRDC, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.